Africa Radio et nous.
Dieneba Dembélé.
Mieux vivre au 21e siècle.
Cette semaine, dans Mieux vivre au 21e siècle, sauver la démocratie en faisant entendre pour de vrai les voix des habitants des quartiers populaires, remettre au centre des débats les sujets qui préoccupent réellement les habitants et les transmettre aux candidats, ceux à 2 mois de la présidentielle. C'est possible et comment? Eh bien, ça passe par le Tour de France. Nos quartiers ont de la gueule à l'initiative de la coordination nationale Passons-nous. Avec nous, Mohamed Mershmash, qui est militant associatif et qui est fondateur de cette coordination nationale. C'est bien cela? Bonjour Mohamed.
Bonjour, oui, tout à fait. Et puis, je suis président de Passons-nous. Quoi.
Passons-nous, ça existe depuis 2014.
Oui, depuis 2014, suite au rapport qu'on avait rendu avec Marie-Hélène Baquet pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ouais. On avait fait effectivement un tour de France pour aller à la rencontre des habitants et du tissu associatif. Ouais. Et on avait tout simplement mis à l'intérieur des propositions de créer une sorte de plateforme d'initiative citoyenne qui permettait effectivement d'avoir une expertise et une expérience pour être utile aux uns et aux autres sur des spécificités dans certains territoires. Nous, on a décidé tout simplement de se constituer en coordination nationale comme une forme de syndicat pour pouvoir tout simplement apporter aussi notre analyse sur ces quartiers. Nous sommes aussi des experts et contraindre les institutions à nous reconnaître en tant qu'experts et acteurs de la vie et du lien social.
Vous êtes surtout porte-voix de ces quartiers populaires. Alors justement, ils sont nombreux, les citoyens français de ces quartiers populaires, à se tourner vers vous. Qu'est-ce qu'ils vous racontent?
Oui, tout à fait. Le mot est juste. On est bien porte-voix. On n'est pas les porte-parole, parce qu'il y a encore d'autres collectifs qui militent sur ces sujets. Oui. Donc, on est bien porte-voix. Écoutez, ce qu'ils nous disent, ce qui est bien, c'est qu'on a un très bon accueil. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont ravis de nous voir arriver donc vers eux. C'est cette forme d'aller vers. Le fait qu'on puisse, à un moment ou l'autre, leur expliquer que ce qu'on mène comme action dans le quartier de la gueule, ils ont trouvé ça intéressant. Ils viennent participer nombreux justement à travailler autour du manifeste. Et puis ils nous parlent des sujets, des vrais sujets de leur quotidien et pas ceux dont certains aujourd'hui médias mettent en avant ou certains responsables politiques mettent en avant comme si ces habitants qui sont avant tout aussi des citoyens à part entière et pas des citoyens à part, des sujets qui sont très éloignés de leur quotidien quoi. Donc de là, ça permet d'avoir effectivement le pouls, parce que c'est ces habitants qui, aujourd'hui, sont concernés et qui s'expriment de leurs difficultés ou de leurs conditions de vie dans ces territoires.
Alors, c'est quoi, du coup, les vrais problèmes?
Alors, les vrais problèmes, ils nous parlent, en tout cas, de leur pouvoir d'achat. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous expliquent que jusqu'à maintenant, à partir du 10 du mois, ça devient très compliqué. Oui. Autant ils nous parlent de ceux qui travaillent, qui disent qu'ils n'y arrivent plus. Voilà, parce que tout augmente, je veux dire le prix du loyer, les charges. Mmh. Donc ils nous parlent de ça, ils nous parlent de leurs bailleurs, ils nous parlent tout simplement des problèmes de santé, de ne pas pouvoir se soigner correctement. Mmh. Ils nous parlent de l'école pour leurs enfants. Mmh. En estimant que certains nous disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi eux, quand leur prof est absent, il n'est pas remplacé tout de suite. Mmh. Et donc ils nous expliquent que c'est dès le départ que le gamin est en échec. Mmh. Ils nous expliquent en tout cas que, y compris en termes de discrimination, certains jeunes qui sont des bacs plus 5 se retrouvent malheureusement confrontés à ce plafond de verre, ou bien on leur propose du travail au SMIC sans qu'on prenne en compte leurs compétences ou leurs diplômes. Oui. Et ils disent qu'à un moment ou à l'autre, ça ne va plus. La question des services publics, ils estiment encore une fois qu'ils ne sont pas logés à la même enseigne. Mmh. Et une bonne partie de ces habitants, ils disent on ne comprend pas pourquoi nous, on serait traités différemment alors qu'on vit dans un territoire qui est la France, dans un pays qui est la France, et je ne vois pas pourquoi il y a autant d'inégalités sur nos quartiers, et alors qu'ailleurs, certains ont pratiquement toutes les infrastructures. Quoi.
Oui.
Donc voilà ce qui remonte.
Justement, autour de cette question d'inégalité, deux choses dont déjà on a bien compris que de toute façon, les préoccupations sont majoritairement économiques. On a l'impression qu'en fait, les problèmes sont toujours les mêmes. Alors comment on fait différemment aujourd'hui pour faire remonter ces doléances?
Ben, on essaie d'expliquer, de faire un peu de pédagogie. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'avais déjà lancé à l'époque avec Assez le Feu, en 2005, on avait déjà fait un tour de France qui s'appelait les cahiers de doléances.
Oui. Alors, Assez le Feu, pour les auditeurs, c'est l'association collectif Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble Unis, dont vous êtes membre fondateur, hein, c'est ça?
Voilà. Et on avait déjà lancé, suite aux révoltes sociales qu'on a connues en 2005, après la mort de Yadé Bouna Perlorame, on avait lancé justement cette initiative pour tout simplement décrire ce malaise et ces inégalités qui existaient déjà. C'est-à-dire que quand on s'était lancé, ça faisait déjà 30 ans. Et avant nous, si on se rappelle dans les mémoires, il y avait déjà eu la marche pour l'égalité contre le racisme. Oui. C'est-à-dire que la première génération issue d'immigration avait déjà marché pacifiquement pour dire « Nous, on va être traités, pas plus, mais pas moins que les autres. Nous voulons être traités dans le droit commun. » Et on s'est aperçu que notre démarche à nous a fait la même chose. Mmh. En gros, on était en train d'expliquer qu'il y avait un malaise dans ces territoires, d'inégalité de justice sociale qu'il fallait absolument qu'on rétablisse. On n'a pas tenu compte. Et ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on n'ait pas tenu compte, alors qu'on était le thermomètre, c'est d'autres populations qui sont aujourd'hui impactées, concernées par ce sujet-là. Donc on a vu après, effectivement, dans des quartiers ruraux où il y a un désert sanitaire, où il y a un désert des services publics, où une jeunesse, malheureusement, de ne pas avoir d'avenir. On s'est aperçu qu'après, c'est la crise des gilets jaunes, pour le pouvoir d'achat, le fait qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Tout ça, c'est ce que nous, on pointait à l'époque. Et c'est là où on essaie de faire un peu de pédagogie avec nos responsables politiques, c'est de dire, en fait, si vous ne traitez pas le mal à la racine, automatiquement, c'est d'autres qui seront impactés par ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, je veux dire. En gros, à force d'avoir mené des politiques d'exception dans ces territoires, eh ben, on n'a pas réglé le problème de fond. On a fait du saupoudrage. On a aujourd'hui été le fonds de commerce de certains responsables politiques qui aujourd'hui sont en train de dire qu'on a mis trop d'argent dans les quartiers. Finalement, ça n'a rien réglé. Mm-hmm. Mais c'est faux, je veux dire. Ce qui a été mis n'a pas été fléché réellement vers les habitants pour pouvoir leur donner et rééquilibrer justement ce sentiment ou non plus un sentiment, c'est une réalité, c'est des faits. C'est-à-dire c'est factuel, cette injustice et ces inégalités qui existent dans ces territoires. Donc, c'est aussi en comparant ce qui se passe actuellement et ce que vivent aujourd'hui des Français de classe moyenne. Oui. Alors, vous imaginez, pour ceux qui, clairement, n'étaient pas des classes moyennes, donc ça veut dire pour eux, c'est la survie. Mmh. Et on a quand même atteint le seuil de pauvreté. On est presque à 10 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est énorme. Et quand je dis ça, j'ai aussi une pensée pour les Tom-Tom, qui aussi, dans leur quartier, dans leur territoire, sont aussi confrontés, si ce n'est encore pire que ce que nous, on peut vivre encore sur nos territoires-là. Mmh. Donc, il y a tout ça qu'il faut qu'on prenne en compte. Oui. Et ça, il faut que le responsable politique s'en empare. Mais s'en empare pas juste par démagogie ou en faisant semblant. C'est-à-dire qu'il a les mots pour nous séduire, mais nous, on attend les actes pour nous convaincre. Et si on ne prend pas en compte ces difficultés, j'ai juste peur que plus on va avancer dans le temps, et plus les inégalités vont se creuser et toucheront tout le monde à la finalité. Quoi.
Pourquoi nos quartiers ont de la gueule ?
Alors, deux choses. C'est-à-dire que le terme de quartier ont de la gueule, c'était de dire tout simplement qu'on a des choses à dire et que dans nos quartiers, il se passe des belles choses, contrairement à ceux qui voudraient aujourd'hui nous laisser penser qu'on est un réservoir de coupables. Mais bien au contraire, à travers ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, on l'a démontré aujourd'hui, si on regarde bien nos artistes, les plus grands, nos sportifs qui sont aujourd'hui plus grands, ceux qui réussissent aujourd'hui dans le monde médical, ainsi de suite, sortent de ces quartiers. Donc, encore une fois, je redis, nos quartiers ont de la gueule parce que le mot gueule, c'est aussi dire qu'il se passe des belles choses aussi dans ces territoires.
L'objectif, c'est échanger avec la population à l'approche de la présidentielle française de 2022 pour remettre au centre des débats les sujets de préoccupation. Alors, vous êtes sur les routes depuis fin octobre déjà. Mohamed Meshmash, de retour d'Angers. Oui, comment on fait pour réconcilier les centres-villes et les quartiers populaires, d'après vous ?
Tout simplement, c'est ne pas les opposons. Donc, il faut absolument qu'on n'oppose pas ceux des centres-villes et ceux des quartiers populaires, mais bien au contraire, c'est de créer ces formes de passerelles. Et ces formes de passerelles, c'est tout simplement remettre au cœur des politiques publiques le citoyen, qu'il soit issu de ces quartiers populaires ou qu'il soit issu des centres-villes. C'est expliquer qu'on vit des mêmes situations, qu'on les subit des fois, et qu'on a tout intérêt, au contraire, à rester solidaire et à travailler ensemble pour pouvoir tout simplement continuer à faire ensemble pour mieux vivre ensemble.
Oui. Alors, je le disais, vous êtes sur votre second tour de France. Quelle différence vous constatez avec le premier ? Et est-ce que vous observez une implication croissante et une volonté de se faire entendre de la part des habitants des quartiers populaires ?
Oui, parce que en fait, le Tour de France, il est aussi pour tout simplement, on est dans le réveil des consciences. Quand on dit dans le réveil des consciences, ça veut pas dire que les Français ne sont pas conscients. Au contraire, c'est tout simplement de discuter énormément, de prendre le temps de discuter et d'expliquer les enjeux qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même sur un tournant où, excusez-moi, on voit les extrêmes de plus en plus violents. On voit même ceux qui ne l'étaient pas à le devenir. Et ça devient quand même assez gravissime. En gros, on a oublié que pendant la pandémie, ces habitants qui, au détriment de leur vie, ont fait tourner l'économie française. Mm-hmm. Les caissières, les chauffeurs-livreurs, les taxis, les aides-soignantes, les aides-soignants. Enfin, tous ceux qui aujourd'hui ont joué un rôle majeur. On oublie que cette jeunesse qu'on pointe du doigt, qui vit notamment dans ces quartiers, on essaie de les criminaliser, les diaboliser, mais on oublie que c'est cette jeunesse qu'on devrait s'adresser à elle en parlant d'amour, en disant qu'on l'aime. Parce que pendant la crise sanitaire, ils ont été très actifs en termes d'entraide et de solidarité.
Oui.
Ils se sont débrouillés pour apporter des colis alimentaires aux plus personnes âgées, en aidant son voisin, son ami, ses proches, en allant faire des maraudes. Et ben, c'est tous ces habitants, ces citoyens qui vivent dans ces quartiers qui ont fait tourner l'économie française. Et aujourd'hui, il y a des candidats qui se permettent de parler en mal de ces habitants comme s'ils étaient le problème.
Oui.
Nous, on leur dit, vous vous trompez, c'est une partie de la solution et ils vous l'ont démontré pendant la crise sanitaire. Mmh. Donc, il faut absolument qu'on arrive à expliquer à toutes ces personnes qui aujourd'hui, et je peux le comprendre, parce que l'abstention, elle ne touche pas que les quartiers populaires.
Oui.
Elle touche aussi aujourd'hui, y compris les milieux de classe moyenne qui n'y croient plus, qui n'ont plus envie d'aller voter en estimant que ça ne sert à rien.
Oui.
Moi, j'ai juste envie de leur dire que je peux comprendre cette colère. Je comprends qu'elle s'exprime dans l'abstention. Moi, j'aimerais plutôt qu'elle s'exprime dans les urnes pour tout simplement démontrer, en gros, qu'on doit aller voter. Pourquoi ? Parce qu'on a cette chance de pouvoir le faire alors que d'autres ne l'ont pas.
Oui.
Et leur expliquer qu'en fait, l'abstention joue en faveur de ceux qui, clairement, sont heureux qu'il y ait de l'abstention. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils sont élus, eh ben, ils nous sortent des lois qui ont un impact sur nos vies. Et c'est-à-dire que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est peut-être spectateur parce qu'on n'a pas été voté, mais ceux qui seront élus avec très peu de voix auront et feront des lois qui auront un impact sur nos vies. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Et il sera trop tard. Donc, il faut absolument quand même qu'on soit conscient. Et quand je dis ça, je dis aux gens, allez voter, ils ont même le droit d'aller déposer un bulletin blanc. Et si demain, on est nombreux à le faire, et qu'on se retrouve majoritairement avec des bulletins blancs, et ben là, on pourra plus nier la réalité de dire on ne se désintéresse pas à la politique, on se désintéresse à ceux qui aujourd'hui nous ne représentent pas.
Oui.
et on voudrait tout simplement les désavouer par ce vote blanc.
Mmh.
Et donc on pourrait automatiquement peut-être prendre en compte cette question du vote blanc.
Oui.
Et pouvoir dire vous n'êtes pas les représentants, donc il faut peut-être qu'on refasse une nouvelle élection ou ainsi de suite. En tout cas, il est important, y compris pour la suite. Quand je dis pour la suite, c'est que il y a des initiatives qui vont arriver derrière.
Oui.
Et je pense qu'à chaque échéance, quand on regarde bien, la première des choses que font ceux qui se présentent, ils demandent la liste des votants. Et ils s'aperçoivent que dans tel quartier, ça vote. Donc, ils vont s'adresser qu'à ceux qui votent. Et ceux qui votent pas, ils n'ont aucun intérêt à s'intéresser à eux et à leurs problèmes.
Oui.
Parce qu'ils ne votent pas. Et donc, il faut que les gens comprennent qu'à un moment ou l'autre, le rapport de force, c'est au moment où vous allez voter. Croyez-moi que ça brouille le message, parce que ceux qui sortiront des listes électorales seront obligés de regarder si dans tel quartier, ça a voté à 60%. Croyez-moi que celui qui va se présenter, il a tout intérêt à aller rencontrer ses habitants et leur dire quels sont vos problèmes et comment on va les régler.
Oui,
mais tant qu'on le fait pas,
oui,
ils en ont rien à foutre de ce qui, ou ce qu'on vit, ou ce qui s'y passe. Et encore pire que ça, c'est qu'ils se disent pourquoi j'irai les réveiller, parce que si demain ils vont aller voter, ça se trouve, ils voteront pas pour moi.
Oui.
Et je risquerai de perdre. Donc, il faut absolument qu'on arrive à imprégner à quoi et quel impact ça a, le fait d'aller voter. Voilà.
4 mois du coup que vous êtes sur les routes de France, vous avez évoqué dans votre communiqué de presse l'expression « sauver la démocratie en danger ». Est-ce que vous considérez toujours que la démocratie est en danger, vous qui êtes au plus près des populations, des quartiers populaires depuis 4 mois ?
Oui, bah ouais, parce que quand on entend aussi certaines personnes qui disent mais moi je n'irai pas voter parce que ça change rien dans ma vie, et on en entend de plus en plus, mais pas que dans les quartiers populaires. je vous assure que quand on va dans les centres-villes, parce qu'on est aussi dans les centres-villes, ce qu'on disait dans le Tour de France, c'est les quartiers populaires et les centres-villes. C'est aussi de leur donner la parole. Oui. Et ben, on entend pratiquement le même discours que ceux qui sont dans les quartiers populaires. Ils sont et ils répètent la même chose. Donc ouais, bien sûr, notre démocratie est en danger. Quand on voit que les dernières échéances électorales, où je suis quand même inquiet que dans des villes, je sais pas moi, on a 10 000 inscrits sur des listes électorales et qu'il y en a que 22 ou 23% qui vont voter. Ça veut dire que la majorité des autres se sont abstenus et qu'aujourd'hui, il y a des élus qui sont élus avec 3 000 ou 2 500 voix. C'est une dinguerie, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est plus acceptable. Je veux dire, et ça ne touche pas que les quartiers populaires, ça touche toute population confondue, y compris dans les centres-villes, dans les classes moyennes et comme dans les classes populaires. Donc ouais, bien sûr que notre démocratie est en danger. Et c'est là où nos responsables politiques devraient s'en inquiéter, oui, que ce soit homme ou femme, devraient se dire, je ne peux pas aujourd'hui me contenter de ça. Ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'on trouve et qu'on puisse remettre du sens à tout ce qui est à cette citoyenneté et à cette démocratie. Donc il faut redonner, il faut être dans de la co-construction, il faut faire en sorte que le citoyen se sente, bien sûr, concerné par des décisions, être dans la co-construction quand il y a des sujets qui les concernent, et on a tendance souvent à faire pour eux, sans eux, et ce que je disais tout à l'heure, faire sans nous, pour nous, c'est faire contre nous. Oui. Voilà.
Les habitants des quartiers, hein, qu'ils le veuillent ou non, ils sont au cœur de la campagne présidentielle, même si on ne les entend pas, on ne les écoute pas. La gauche, elle cherche à les reconquérir, et la droite... Elle fait des habitants des quartiers son fonds de commerce, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Pour prendre part du coup au débat, vous êtes en train de produire un manifeste autour de ce Tour de France avec des propositions concrètes. Mi-mars, la fin du Tour de France, vous avez écouté les citoyens, échangé, débattu, combattu certains discours sécuritaires, antisociaux, racistes certainement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec les déluances et ce fameux manifeste ?
On travaille déjà sur tout ce questionnaire qu'on est tout simplement en train de travailler sur la synthèse. Oui. Comme je vous disais, il y a la question du pouvoir d'achat qui remonte énormément sur ces questions-là. Il y a la question de l'école, la santé. Il y a tout ça qui est en train d'être analysé. Je ne vais pas vous donner quelques propositions, mais en tout cas, il y a des choses qui seront intéressantes à remettre justement dans le débat public. D'accord. Parce que vous avez raison, on n'entend pas énormément parler de sa question des quartiers, y compris la gauche qui clairement s'est éloignée un peu de ses habitants, et ça c'est bien dommageable, et a laissé la droite et l'extrême droite imposer le tempo, notamment des vocabulaires qui est utilisé, les mots d'ordre dont on est matraqué toute la journée par ses responsables politiques et ses médias, et la gauche, je trouve qu'elle a perdu un peu ses combats d'idées. Oui. Donc il serait temps effectivement qu'elle se rapproche un peu plus de ses convictions et de ce qu'elle défend, que c'était la gauche. Malheureusement, très peu sont aujourd'hui concernés et très peu parlent des conditions de ses habitants. Oui. Donc certains candidats en parlent et tant mieux. J'invite à la gauche dans sa totalité de s'intéresser à ce qui se passe dans ces quartiers populaires, parce qu'encore une fois, je vous dis, on est le thermomètre qui donne le pouls et le ton de ce qui se passe en France. 12 mars, à Paris, du côté de République, on va faire des invitations aux candidats à venir nous rencontrer face au manifeste qui n'est pas celui de Passons-nous, mais qui est celui, honnêtement, qui est porté par Passons-nous, mais qui est le porte-voix de tous ces citoyennes et citoyens qui ont participé justement à l'élaboration de ce manifeste. D'accord. Et on veut remettre au cœur du débat cette question d'injustice, d'inégalité, cette question de ces citoyens qui vivent dans ces territoires et qui disent qu'ils veulent qu'une chose, c'est ne plus être traités comme une exception. Ça fait 40 ans qu'on les traite comme une exception. Ils veulent être traités dans du droit commun, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir des services publics à la hauteur de ces citoyens. Ils veulent des écoles à la hauteur de ces citoyens. Ils veulent un service de santé à la hauteur de ces citoyens, accès à la culture, ne plus avoir et être concerné à cette discrimination, avoir une police de proximité qui en fait les protège et qui n'ont pas le sentiment inverse et qui finissent par avoir peur de cette police, alors oui, que c'est aussi un service public. Donc il y a tous ces sujets qui remontent et qui nous sont portés, y compris quand on croise des jeunes. Eux, ils nous parlent de leur quotidien. Et leur quotidien, c'est dire qu'ils font face déjà pas mal de difficultés, mais qu'ils sont aussi confrontés, justement, lorsqu'ils sont face à la police, à en avoir peur et à ne plus pouvoir pouvoir à un moment ou l'autre échanger ou dialoguer, tout simplement en ayant peur que ça se termine malheureusement très mal. Oui. Donc il y a tout ça qui remonte et ça c'est le quotidien de ces habitants.
Merci Mohamed Meshmash, militant associatif fondateur de la coordination nationale Pas sans nous, membre fondateur aussi du collectif Assez le Feu, association collective Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble Unis. Nous parlions donc de ce Tour de France, nos quartiers ont de la gueule, qui se poursuit jusqu'au 12 mars avec la remise du manifeste aux candidats. Il vous reste donc encore quelques villes à parcourir, Mohamed Meshmash. Donc on vous souhaite bon voyage tout simplement et bonne rencontre.
Eh ben moi je vous souhaite bonne continuation. Merci en tout cas de prendre du temps de parler de ces sujets-là et de pouvoir le transmettre donc à vos auditrices et vos auditeurs et puis longue vie encore une fois à votre radio. Merci. Et puis je vous dis à très vite, peut-être au 12 mars.
Voilà. Merci Mohamed Meshmash.